Que le nom de notre Seigneur soit nouveau béni ce soir, pour sa douce présence, pour sa sainte parole et pour son Saint-Esprit. Alléluia. Il est bon et dans son amour, il veut encore nous faire du bien ce soir. Et que toute la gloire lui en revienne. Nous avons parlé ces derniers jours des ruses de l'adversaire. Et dans différents domaines, nous avons essayé de découvrir ces différentes ruses de l'ennemi. Et ce soir, nous allons aborder un autre domaine qui est la cible toute particulière de l'ennemi aujourd'hui dans la vie de l'individu. Et cette cible, comme j'en ai fait mention hier soir, est la cible de la famille. Résister au diable et avoir une vie chrétienne victorieuse, c'est aussi résister dans son propre foyer. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de vie chrétienne victorieuse possible sans une vie chrétienne victorieuse dans la maison. Cela ne peut pas durer longtemps. D'une manière générale, la vie d'une église est ce que la vie d'un foyer est. La vie d'une nation est ce que la vie d'une famille est. N'est-ce pas vrai? Il ne faut pas être prophète pour dire cela. Mais nous devons être au courant de tout ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous afin que notre foyer, nos familles résistent en face de la tentation et des tempêtes qui s'abattent sur notre société. Et nous allons aborder ce soir le rôle tout particulier du mari. Et en vous apportant ce message, je suis pleinement conscient de mes propres manquements. Si on devait attendre que l'on soit parfait pour prêcher sur quelque chose, vous êtes d'accord, on ne prêcherait pas beaucoup. Vous êtes d'accord? Alors ne me passez pas trop au peigne fin ce soir. Nous allons tout simplement, vous comme moi, nous laisser sonder par la parole de Dieu, n'est-ce pas vrai? Il n'y en a pas un qui essaye de vous juger plus que nous. Ce que je vous dis, je me le dis aussi à moi-même. Combien de fois c'est cela? Seigneur, ce que je dis aux autres, je veux le vivre moi-même. Autrement, quelle hypocrisie, quel mensonge. On dit assez de choses qu'on ne vit pas soi-même. Nous allons donc aborder ce problème dans les foyers. Beaucoup de problèmes dans les foyers, vous ne trouvez pas? Que de souffrances, que de larmes, que de problèmes cachés, que de problèmes cachés. Peut-être vous-même ce soir, vous paraissez un couple qui s'entend bien devant les autres. Mais dans votre vie privée, il y a des larmes, il y a des problèmes qui sont devenus insolubles. Vous essayez de sauver la face devant les autres, mais il y a de graves problèmes. Que Dieu nous aide à sauver nos familles. Vous êtes d'accord? C'est très important, s'il vous plaît. C'est pourquoi, avant d'aller plus loin, nous allons quand même lire trois textes qui nous parlent de ce message que Dieu veut nous adresser ce soir. Lisons un premier passage dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre. Chapitre 3. Et le verset 7. Pierre 3, 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un vase plus faible. Et ici, faible ne veut pas dire inférieur, s'il vous plaît. On comprend bien souvent les textes un peu à notre façon. Comme un vase plus faible ne veut pas dire inférieur, le mot vase dans le texte original veut dire comme un vase plus délicat et plus fragile, plus sensible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que de prières sont inexaucées dans un couple, parce que ce couple n'est pas en ordre devant Dieu. Un deuxième passage, Colossiens 3:19. Un simple verset. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Ne vous endurcissez pas. Ne soyez pas durs à leur égard. Si le Saint-Esprit rappelle cela, c'est que l'homme a d'une manière générale tendance à être dur avec sa femme. Et je le dis pour moi en particulier. Que de fois je suis attristé par des paroles de dureté qui sortent de ma propre bouche. Je le regrette après, mais c'est quelque chose qui est là, spécialement aussi avec les enfants. Que de paroles dures qui sortent, qui ne doivent plus sortir. Et un dernier passage, Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25, les passages concernant l'épouse et la femme, nous les verrons demain. Ne dites pas, oh frère, ce soir, formidable, vous prêchez au mari, oh là là. Oh, que Dieu vous bénisse ce soir. Attention, vous aurez votre tour demain. Ne dites pas, j'ai mal à la tête demain soir. J'ai besoin de me reposer, frère. Ce soir, je suis en pleine forme. Mais demain soir, j'ai l'impression que j'aurai mal à la tête. Éphésiens 5, verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Retenez cette expression parce qu'elle va être à la base de notre méditation. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Il va y avoir là pour nous un parallèle que nous allons tirer pour voir comment un mari doit aimer sa femme. Il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors nous allons voir 5 différents ministères de Jésus qui passeront pour être le ministère du mari à l'égard de sa femme. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Autrement dit, vous vous faites une faveur en aimant votre femme. Cher Marie, faites-vous une faveur ce soir. Il y a aussi cela dans la pensée originale. Faites-vous une faveur en aimant vos femmes. Faites-vous une faveur. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Voyez-vous toujours le rapport? Comme Christ le fait, comme Christ a aimé, comme Christ s'est livré, comme Christ s'est sanctifié, le mari de même doit agir. Comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela, par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que le Seigneur nous aide à avoir sa pensée ce soir et que mes pensées ne soient pas mes propres pensées, mais les pensées du Seigneur pour chacun d'entre nous ici. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, il est intéressant de se poser une question. Comment Christ a aimé l'Église? Si nous savons cela, ou si nous découvrons cela, nous pourrons savoir et découvrir comment un mari doit aimer sa femme. Parce que beaucoup d'entre nous, on se dit, mais je dois aimer ma femme, mais comment? On a des sentiments d'affection, mais on réalise que ces sentiments d'affection, ça devient facilement une infection. Ça s'infecte vite, parce que ça s'affecte vite. Il y a bien tout un langage d'amour. Mais nous ne savons pas cela, à quoi cela nous engage. Vous êtes d'accord? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ a aimé l'Église de 5 manières différentes. Christ a eu 5 ministères précis à l'égard de l'Église. Christ a aimé l'Église en tant que époux. Ensuite, en tant que sauveur. Ensuite, en tant que sacrificateur. Ensuite, en tant que Seigneur. Et pour terminer, Christ a aimé l'Église en tant que chef. Ou exemple ou modèle. Voyez-vous, ces expressions se retrouvent dans le passage de l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous êtes d'accord? Alors nous allons revoir ces 5 ministères concernant le mari. Premièrement, le premier ministère du mari est d'aimer sa femme comme un époux. Comme un époux. Et lorsqu'on aime sa femme comme un époux, l'époux doit être sensible aux besoins de l'épouse. L'homme doit être très sensible pour découvrir ce qui peut faire du bien à son épouse. Et là, que de maris sont insensibles, sont durs et manquent tant de délicatesse. Que devons-nous découvrir exactement? Comment découvrir ses besoins? Il y a un chemin tout simple qui nous permet de découvrir les besoins de l'épouse, c'est de manifester notre amour. L'épouse aime que l'amour que nous avons pour elle soit exprimé, soit manifesté. Vous allez me dire, oui, on sait ces choses, mais est-ce que nous le pratiquons? J'ai lu le récit d'un paysan qui s'était marié, bien sûr, et pendant 25 ans, il avait pris une habitude. Tous les matins, il s'en allait pendant 2-3 heures, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais après, il revenait et sa femme avait préparé un beau déjeuner paysan. Et au bout de 25 ans, le voilà qui rentre. Un beau matin, pas de déjeuner. Il est étonné, monsieur le paysan. Monsieur l'époux paysan est étonné. Il va un peu dans toutes les champs pour découvrir, pour chercher sa femme. Et il voit sa femme en train de pleurer. Et lui dit, femme, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu pleures, femme? Oh, Hans, il s'appelait. Hans. Tu ne m'as jamais dit que tu m'aimais. Ça fait 25 ans qu'on est mariés. Et le mari a dit, écoute chérie, quand on s'est marié, je t'ai dit qu'on s'aimait. Et s'il y a quelque chose qui changera, je te le ferai connaître. Je te le ferai savoir s'il y a quelque chose qui change. S'il y a du changement, je te le ferai savoir. Lui, il était satisfait avec cette expression de l'amour, mais sa femme n'était pas satisfaite. L'amour est un acte. L'amour doit s'exprimer, vous êtes d'accord avec moi? Dire seulement qu'on aime dans le fond du cœur, ce n'est pas le véritable amour. Et moins les époux expriment leur amour entre eux, plus l'amour diminuera dans leur cœur. C'est une loi spirituelle. Vous dites, mais après 25 ans, on ne fait plus des choses pareilles. Ah oui, vous croyez? Après 25 ans, vous devriez le faire mieux. Il n'y a pas beaucoup d'alléluia, ça. Oh, je m'attendais un peu à cela, d'ailleurs. Je m'attendais à ne pas avoir trop d'alléluia. Peut-être les sœurs crieront alléluia, mais les frères, ils diront, amen. Le mari comme un époux. Je vous pose une question, cher mari. Quand est-ce que vous avez manifesté votre affection à l'égard de votre épouse en lui disant que vous l'aimiez et que vous aviez réellement exprimé des paroles d'affection à son égard? Ça date depuis combien de temps?
C'était pas bon, ça fait 15 jours.
Ça fait 15 jours, mais c'est déjà vieux, 15 jours. C'est déjà vieux, 15 jours. C'est bien, on est bien détendu ce soir, hein? Il faut qu'on soit détendu parce qu'à l'heure. Aimer comme un époux. Et en cela, nous devons faire des progrès. Nous devons l'exprimer. Exprimer, Marie, tout spécialement ce soir, exprimer votre amour. Si vous ne le faites pas, comme cette femme ici, elle n'est pas satisfaite. Il y a quelque chose dans le cœur de la femme. Moi, je ne suis ni un psychologue, ni autre, je n'ai pas fait d'études. Mais il y a quelque chose dans le cœur de la femme qui demande cela. Et le mari, en tant que chef, le mari, en tant que chef du foyer, doit discerner ses besoins. Et dire, oh, t'es trop sensible, t'es trop sentimental, qu'est-ce que c'est que ça, toujours eu, tout, mais je m'en sors jamais avec toi. Eh oui, tu t'en sortiras jamais, tu l'as marié, tu dois te débrouiller jusqu'au bout maintenant. Vous êtes d'accord? Autrement dit, non seulement il doit lui exprimer son affection, mais il doit aussi s'intéresser à elle. S'intéresser. Il faut prendre le temps de l'écouter. On est tellement absorbé par nos propres problèmes qu'on ne sait plus discerner les problèmes de l'épouse. Quand vous rentrez du travail le soir, au lieu de tout de suite prendre le journal ou ouvrir le poste de télévision, commencez à dire, chérie, alors, quelle journée as-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Parlez, intéressez-vous à elle. Elle a besoin de cela, vous ne pensez pas? Ce sont des choses toutes simples que je vous dis ce soir. Mais nous trébuchons sur les choses simples. Ce ne sont pas des grands péchés qui divisent les foyers. Ce sont de petites choses qui attriste le cœur de l'un et de l'autre. Vous êtes d'accord? Nous devons honorer notre femme. Que de maris déshonorent leur femme devant les autres. C'est la plus grande erreur que vous puissiez faire. Non seulement devant les autres, mais aussi devant leurs enfants. Que de maris font cette bêtise grossière. de reprendre leurs femmes devant les enfants. Une telle attitude blesse profondément le cœur des enfants. Et vous lui faites un tort inestimable. S'il y a quelque chose à dire, c'est toujours en privé. Vous êtes d'accord aussi? Honorez-la. Et aussi honorez-la devant les autres. Que deux fois nous entendons des propos d'hommes. Oh, ma femme, elle est comme ça. Oh, ma femme, si vous saviez, elle est comme ça. Oh, ma femme, si vous saviez, elle est comme ça. En déshonorant votre femme devant les autres, vous vous déshonorez vous-même. Ne pensez pas que vous serez honoré en déshonorant votre épouse, ça n'existe pas. Et ne pensez pas que votre épouse va vous honorer si vous la déshonorez, ça n'existe pas. C'est pas parce que c'est notre épouse qu'on doit la prendre pour la dernière de la maison. On est parfois terrible, vous êtes d'accord avec moi, avec les gens du dehors, on prend des gants. Bonjour madame Intel. Bonjour sœur Intel. Et on parle avec gentillesse, n'est-ce pas, on est gentleman. Avec les autres. Nous honorons les autres. Dites-moi s'il y a une personne que nous devons honorer, nous les maris. La première personne que nous devons honorer au monde, bien sûr, après le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi, la première personne qui doit être honorée, c'est votre épouse. À quoi cela sert-il d'honorer tout le monde et qu'à la maison vous déshonorez celle qui s'est donnée à vous, celle qui a risqué sa vie pour vous. Et pour moi, elle a eu de la foi, vous êtes d'accord? Et combien nous devons veiller à cela et honorer du fond de notre être celle que Dieu nous a donnée. Reconnaissez aussi ses talents. Reconnaissez ses talents. Appréciez ses efforts, récompensez, relevez tout ce qui est positif, la moindre chose, le bon repas qui est fait, c'est pas grand chose, mais dites que c'est bon, dites-lui qu'elle est une bonne cuisinière.
Mais, tu vois, c'est encore brûlé aujourd'hui.
Ta sauce est encore ratée. Et ce sont des choses qui enveniment un foyer. Vous ne trouvez pas? Appréciez ces talents, c'est tout simple. C'est pratique. Mais mettez cela en pratique et vous verrez que votre foyer deviendra le ciel sur la terre. Comme un époux. Et un époux doit s'exprimer. Doit dire ce qu'il ressent. Vous devez le dire. Ne gardez rien. Dites-le. On a 5 ministères à voir. Il faut que j'aille un peu plus loin, hein. Mais je crois que cela est important de le savoir. Deuxièmement, le deuxième ministère, c'est le mari du ministère comme sauveur. Naturellement, pas comme celui qui sauve l'âme, mais comme celui qui sauve son foyer et qui fait en sorte que la bénédiction de Dieu repose sur lui. Et en tant que sauveur, il y a l'expression de l'amour qui se manifeste par le sacrifice de soi-même. Nous parlons beaucoup d'amour, mais le véritable amour agapé Christ a aimé l'Église. Le mot « aimer » ici est le mot « agapé ». Et « agapé » veut dire « aimer en se sacrifiant ». C'est toujours les autres qui doivent se sacrifier. C'est toujours la petite femme qui doit se sacrifier. Nous, on est là comme le chef. On donne des ordres. Mais il n'y a pas un brin de sacrifice dans notre amour. Nous aimons pour ce que nous pouvons recevoir. Nous faisons même des choses qui ne nous coûtent rien. Et le véritable amour, c'est l'amour qui se sacrifie. Et dans cette mesure-là, la paix et l'autorité spirituelle vous sera confiée. Savez-vous que Jésus a dit « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». À quel moment a-t-il dit cela? Lorsqu'il avait passé déjà à la croix. Lorsqu'il s'était sacrifié pour l'humanité, lorsqu'il avait renoncé totalement à lui-même, alors à ce moment-là, Dieu lui a donné toute autorité. Mais il n'y a pas d'autorité spirituelle pour le mari sans qu'il passe par la croix, sans renoncer à lui-même. L'autorité spirituelle n'est pas celui qui commande les autres, mais c'est celui qui renonce à soi-même pour le bien des autres. Alléluia! C'est pourquoi la véritable nature de l'autorité spirituelle se trouve dans le renoncement à ses droits, à ses désirs, à ses pensées, pour le bien de l'épouse. Et c'est à ce moment-là que l'autorité spirituelle se manifeste. Mais un amour sans sacrifice, c'est un amour égoïste qui ne bénit personne et qui produit des troubles dans le foyer. On va aller un peu plus loin maintenant, en voyant un troisième ministère. Le ministère du mari, cette fois, comme un sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, l'homme doit aider sa femme à devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. Autrement dit, il doit veiller à la vie spirituelle de sa femme. C'est le premier devoir du mari, de veiller à la vie spirituelle. Toute autre tâche qui étouffe la vie spirituelle d'une personne ou d'une épouse doit être absolument mise de côté. Avant tout et par-dessus tout, l'homme, le mari doit veiller à cela et faire en sorte qu'il y ait dans le foyer un culte de famille. Si vous n'avez pas de culte de famille chez vous, vous allez au-devant de grandes difficultés et même au-devant de la catastrophe. Savez-vous ce que les statistiques disent? Un foyer sur cinq finit par le divorce là où le couple n'a ni de culte de famille, ni ne va à l'église. Un foyer sur cinq divorce. Pas de culte de famille, pas de vie d'église. Un foyer sur 50 cette fois divorce là où il n'y a pas de culte de famille, mais là où on va à l'église. C'est un peu moins fort déjà. Mais il y a un divorce sur 500 environ, là où on va à l'église et où il y a un culte de famille dans la maison. Autrement dit, là où le culte de famille se trouve, Dieu bénit ce foyer. Là où on prie, les époux qui prient ensemble restent ensemble. Avez-vous bien saisi? Avez-vous bien entendu? Les époux qui prient ensemble restent ensemble. Et le mari doit veiller à ce qu'il y ait du côté de sa femme cette nourriture spirituelle. Et il doit tout faire pour l'aider, pour l'encourager dans ce domaine. Il ne doit pas y avoir des moments toujours séparés de l'homme et de la femme. Au début, moi, je m'entêtais un petit peu quand on a commencé. J'avais mon petit culte personnel. Ah, mais moi, j'ai ma communion avec Dieu. Et ma petite femme était dans un coin là-bas. Mais je pensais que je faisais bien. Mais je voyais que si je continuais comme ça allait très mal aller.
Nous devons prier ensemble. Et si vous le faites, vous resterez ensemble. S'il y a ici des maris qui n'ont pas encore établi un culte de famille, vous êtes désobéissant. Vous êtes un rebelle. Vous ne protégez plus votre foyer. Ce n'est pas la femme qui doit constamment vous dire, alors, on prie aujourd'hui ou quoi? T'es décidé à faire la prière? Mais combien? C'est uniquement la femme qui doit faire quelque chose. L'homme est tellement rebelle. Oh, dis-moi, je suis fatigué. Ah oui? Mais pour autre chose, tu n'es pas fatigué. La force te revient tout de suite quand c'est pour faire quelque chose qui te plaît. C'est l'homme qui doit prendre l'initiative d'établir dans son foyer un culte de famille. Amen. Et tout ce qui peut encourager son épouse pour grandir spirituellement, l'homme doit mettre cela en premier. Que Dieu soit béni. L'homme comme un sacrificateur. Il est comme celui qui protège son foyer. Ce n'est pas le fer à cheval qui protège votre foyer. Ce n'est pas le trèfle à quatre qui protège votre foyer. Ce n'est pas en disant, en touchant du bois que vous protégez votre foyer. Ces choses font précisément le contraire. C'est lorsque l'homme obéit à l'ordre divin pour lui que la bénédiction de Dieu descend. Et maintenant, nous allons voir l'homme comme Seigneur cette fois, comme Seigneur. Et en tant que Seigneur, il doit être le protecteur de son épouse. Quelqu'un a dit un jour, Dieu n'a pas tiré la femme de la tête d'Adam pour que la femme domine sur lui. Vous avez bien compris, les épouses, là? Il faut quand même que je vous dise un petit mot en passant, parce que... Dieu ne vous a pas tiré de la tête d'Adam pour que vous dominiez sur Adam. Et Dieu n'a pas tiré aussi la femme des pieds d'Adam pour que Adam piétine son épouse. Mais Dieu a tiré Ève du côté d'Adam, pour qu'elle soit son égale. Il l'a tirée de dessous le bras pour que Adam la protège. Et il l'a tirée près du cœur pour que Adam l'aime. Autrement dit, en tant que mari, votre femme est votre égale, vous êtes son protecteur, et vous devez l'aimer. Le mari en tant que Seigneur, il doit la protéger. Et dans beaucoup de domaines, elle doit être protégée. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est un vase plus fragile, plus délicat. Il y a une sensibilité en elle que l'homme n'a pas. L'homme est plutôt, c'est plutôt l'intellectuel, il est plutôt raisonneur. Cette sensibilité très souvent lui manque. Mais l'homme doit la protéger. Et dans quel domaine? Premièrement, il doit la protéger dans le domaine économique. Ceci veut dire que c'est l'homme qui doit pourvoir aux besoins de son foyer. C'est une simple loi, mais l'homme doit pourvoir aux besoins de son foyer. Et ce n'est pas biblique que les deux travaillent. Ce n'est pas biblique. Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, j'en conviens. Mais très souvent, quand l'autre travaille, c'est pour élever le niveau de vie et le standing de vie. Et en élevant le standing de vie, la vie spirituelle baisse. Si vous êtes deux à travailler et que votre vie spirituelle a baissé, vous êtes en désaccord avec le plan de Dieu et tout ce que vous gagnerez ne profitera pas. C'est l'homme qui est responsable de pourvoir aux besoins de son foyer. Il vaut mieux vivre humblement avec la présence de Dieu que de vouloir vivre à un niveau élevé et de perdre toute vie spirituelle. Vous êtes d'accord? Ce n'est jamais dans le plan de Dieu que la femme aille travailler. Elle doit être à la maison. Elle a assez de travail à la maison. Et l'homme doit sortir et pourvoir aux besoins du foyer. Le mari doit aussi protéger sa femme physiquement. Comme elle est plus faible, c'est lui qui doit la protéger de toute agression qui peut surgir. Le mari doit aussi protéger sa femme émotionnellement, dans le domaine affectif. Une femme ne doit pas se battre, ne doit jamais se battre pour obtenir le respect de ses enfants. C'est le mari qui doit intervenir. Un jour, un gamin, de 7 ans, est entré dans la cuisine et a dit à sa maman, « Oh, tu es bête, toi. » Tout à coup, le papa rentre dans le salon et il entend ça. Il rentre, il ouvre la porte comme un éclair. Le gamin, il a su ce qui lui arrivait. Il l'a pris par la chemise, il l'a soulevé comme ça. « Qui est bête ?» « Je suis bête, papa !» C'est moi qui est bête, papa. Et depuis ce jour-là, ce gamin a compris une chose. C'est qu'il ne pouvait pas s'attaquer à sa femme sans qu'il ait la colère du papa sur lui. Mais bien des fois aujourd'hui, « Maman, t'es une pauvre femme, tu sais rien faire. » Et le mari derrière, « C'est bien, continue. T'as raison !» Elle ne mérite que ça. Et nous faisons des enfants des rebelles. Et cet enfant a dit, en 3 minutes, j'ai appris à respecter ma maman plus que tous les livres que j'aurais pu lire à ce sujet. En 3 minutes, la leçon a été apprise. Le rôle des papas, c'est cela. Dès qu'un enfant commence à se moquer ou à dire des paroles qui ne conviennent pas, c'est le mari qui doit intervenir. Elle doit être protégée. Émotionnellement, c'est son affaire. Elle doit être protégée. Et les enfants doivent savoir que le père est là pour protéger la maman. Un autre domaine dans lequel la maman doit être protégée, c'est dans le domaine spirituel. La femme est plus sensible aux choses de l'esprit et il doit savoir la contrôler et la femme doit accepter d'être contrôlée par son mari, en ce qui concerne toute révélation qu'elle peut avoir sur une chose ou sur une autre. Vous le remarquez, Satan est venu vers qui premièrement? Vers Ève. Il savait très bien que s'il venait vers Adam, il aurait une réaction différente. Mais le tort d'Adam, c'est qu'il n'ait pas été là pour la protéger. Et le tort de beaucoup d'Adam, c'est qu'ils ne sont pas là lorsque la femme est tentée. Et il doit être assez spirituel pour pouvoir discerner les ruses de l'ennemi et dire non, dans ce domaine-là, tu ne vas pas plus loin. Un jour, un mari a demandé à sa femme, mais dans quel domaine, disons, tu désires être protégée? Comment? Et l'épouse a dit tout simplement ceci, quand de temps en temps tu me dis non, je me sens protégée. Dans certains domaines, la femme a besoin d'entendre cela. Non, là tu ne dois pas faire cela. C'est une véritable protection. Mais si l'homme abonde dans tout ce que la femme dit, vous ne la protégez plus. Au contraire, vous la conduisez dans la séduction. Et vous, avec elle. Le mari comme seigneur, comme protecteur, c'est votre rôle. Si vous ne le faites pas, Le foyer est ouvert à toutes les ruses de l'ennemi. Si l'homme ne prend pas sa place, qui va protéger le foyer? C'est vous qui devez le faire. Et pour terminer, j'ai noté ici le mari comme chef. Autrement dit, comme exemple. Il n'est pas le patron, mais il est lui-même sous l'autorité de Christ. Et tout ce qu'il dit doit être premièrement vécu soi-même. Quelqu'un a dit un jour, jusqu'à l'âge de 15 ans, les enfants font ce que les parents disent. Mais après 15 ans, les enfants font ce que les parents font. Vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est votre exemple qui finalement l'emportera. Et nous devons être des exemples. Un chef, ce n'est pas celui qui commande, mais un chef est celui qui donne l'exemple. Et vous savez dans quel domaine le mari doit d'abord donner l'exemple? Quand il y a des petites bringues dans le foyer, c'est toujours et toujours le mari qui doit demander pardon le premier. Même si la femme a tort et que son tort est plus grand que celui du mari. Cela vous étonne peut-être, mais le rôle du mari est précisément d'être le chef, d'être l'exemple, et de ne permettre que rien ne reste dans le foyer, qu'aucune amertume, qu'aucun ressentiment. Je vous le dis bien, cela nous fait passer littéralement par la croix. C'est vraiment, dans un sens, un chemin de souffrance, de mort à soi-même, de renoncement, de sacrifice. Mais c'est à ce prix-là, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que de problèmes dans les foyers? Parce que l'un attend que l'autre vienne demander pardon. Et c'est toujours l'autre qui a tort. C'est le mari qui a tort lorsqu'il ne demande pas pardon le premier. C'est vous qui devez faire le problème. Vous êtes le chef, vous êtes le modèle. Vous devez demander pardon pour ce qui a pu attrister votre femme. Et d'une manière générale, si une femme est insoumise ou rebelle, c'est que le mari est insoumis et rebelle. D'une manière générale. Il est rebelle au Seigneur. Si nous voulons avoir une autorité spirituelle, nous devons d'abord être soumis à l'autorité spirituelle de Christ sur notre vie. Mais une femme rebelle est très souvent l'image d'un homme rebelle. C'est pourquoi nous avons une grande responsabilité. Vous le comprenez, n'est-ce pas? J'ai pris l'exemple ici de deux enfants qui se querellaient et qui étaient en train même de se dire de mauvaises paroles. À un moment, en rentrant du travail, le papa leur dit « Mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Les enfants disent « On est en train de jouer au papa et à la maman. On joue au papa et à la maman. Voilà l'exemple que le papa et la maman donnent. Eh ben. Ne vous étonnez pas de cela. Vous avez soit une influence positive ou négative sur vos enfants. Par votre attitude, vous êtes en train de mouler les enfants. De vos enfants. Et vous avez une très grande responsabilité devant Dieu. Un jour, un papa se plaignait de ce que ses deux enfants n'allaient plus à l'église. Pourquoi est-ce que vous n'allez plus à l'église? Et lorsqu'ils sont devenus un peu adultes, il leur a dit, papa, si c'est pas bon pour toi, c'est aussi pas bon pour nous d'aller à l'église. Le papa n'y allait pas, il voulait que ses enfants y aillent. Alors c'est ainsi que ça n'allait pas du tout. Vous comprenez très bien que l'exemple est la meilleure autorité spirituelle, la meilleure leçon. Nos enfants, comme l'épouse, a besoin d'exemple. Voulons-nous être cet exemple? Christ comme chef, l'époux comme un chef. Et pour terminer cette dernière pensée, le but du chef est de découvrir la volonté de Dieu pour le foyer et de la réaliser. Le but de Dieu, du chef n'est pas tellement d'imposer sa volonté. Combien de maris imposent leur volonté? Mais le but de tout mari n'est pas d'imposer sa volonté, mais la volonté de Dieu. Et cela ne se fait pas sans consultation avec son épouse. Il y en a qui n'ont aucune communication. Je suis en train de chercher la pensée de Dieu. Toi, tais-toi. Hein? Toi, tais-toi, j'ai rien à voir avec toi. On n'accepte aucun conseil, aucune suggestion du mari. On veut tout faire soi-même, sans le concours et le conseil de son épouse. C'est une très grande erreur. Une fois que l'époux et l'épouse nous a communiqué sa pensée, alors bien sûr, c'est le mari qui doit décider. Ce n'est pas le mari dit le dernier mot, voilà ce que j'ai noté ici, mais c'est Christ qui a le dernier mot. Le mari le dit parce qu'il est le responsable, mais finalement c'est Christ qui a le dernier mot dans le foyer. C'est pourquoi soyons des modèles et que tout ce que nous faisons soit vraiment dans la pensée du Seigneur. Et alors, la bénédiction sera dans nos foyers. Nos femmes seront plus heureuses, plus joyeuses, plus épanouies et les enfants seront grandement bénis. Amen. Alors nous allons maintenant nous incliner quelques instants dans la prière. Nous allons nous laisser sonder par le Seigneur. Et si Dieu vous a parlé, je vous invite sincèrement à obéir à sa voix. Personnellement, êtes-vous fidèle? Est-ce que vous accomplissez le ministère que Dieu vous a donné? Cher mari, cher époux, est-ce que vous êtes fidèle aux yeux de Dieu? Ce soir, voulez-vous vous consacrer à nouveau à lui et lui dire « Je veux être un vrai époux, un vrai mari dans mon foyer » et accomplir ainsi pleinement la vocation que tu m'as adressée afin de sauver mon foyer, de sauver mes enfants et d'apporter la bénédiction sur chacun d'eux. Courbons-nous dans la prière. Seigneur, nous sommes devant toi. Tu nous as montré comment tu voulais que nous vivions et quel est le rôle des maris dans leur foyer. Seigneur, nous voulons maintenant être honnêtes devant toi, être sincères afin de reconnaître les erreurs que nous pouvons commettre et sincèrement te demander pardon en voulant y remédier désormais, en n'étant plus un lâche dans le foyer, en n'étant plus un fuyard, ni un rebelle à ta voix, mais en étant obéissant jusqu'au sacrifice de soi-même, pour que l'épouse et les enfants en retirent toute la bénédiction. Oh, nous ne voulons plus aimer sans nous sacrifier. Seigneur, ce soir, nous voulons mettre de l'ordre dans nos foyers. Et nous voulons commencer par nous-mêmes, par les responsables et par les maris. Maintenant, Seigneur, tout est dans tes mains. Tu parles au cœur des sacrificateurs, des hommes, des maris, qu'ils obéissent à ta voix et que par leur obéissance, ils protègent leur foyer et communiquent la paix et la guérison nécessaires. Je veux que tu fasses cela dans ma propre vie, Seigneur. Je veux être un meilleur mari et un meilleur père. Jésus, j'accepte de me sacrifier moi-même, de renoncer à moi-même, afin que ta vie coule au travers de moi et que l'autorité spirituelle se manifeste pour le bien de ceux que tu nous as donnés. Amen. Restons dans la prière maintenant et laissons-nous sonder par le Seigneur. et ouvrons-lui notre cœur maintenant, en obéissant à sa voix. Prions maintenant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous apporte la guérison et qui nous donne de voir clair sur notre sentier. Nous voulons la recevoir, ta parole. Nous voulons l'accepter, Seigneur. Et nous voulons que cette parole tombe dans des cœurs bien disposés. Jésus, prends nos vies ce soir. Prends la vie de tous les maris, de tous les sacrificateurs, de tous les hommes, et qu'ils soient conscients de leur ministère. Et que par eux, leurs femmes changent, parce qu'ils ont été changés eux-mêmes. Et que leurs enfants changent, parce que les parents ont été changés. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi comme un sacrifice vivant ce soir. Et accepter de renoncer à nous-mêmes, comme toi, pour le bien des autres. Et alors nous porterons du fruit, et un fruit qui demeure. Alléluia. Levons-nous tous dans la prière, s'il vous plaît. Et nous allons rechanter ce petit cœur, Jésus-Christ est Seigneur. Comme le confessant le Seigneur de notre vie. Que ce soit comme une prière de consécration ce soir. Faisons-le du fond de notre cœur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute bouche confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, nous te confessons le Seigneur dans notre vie, le Seigneur dans nos familles et le Seigneur au milieu de nous. Que ta volonté soit faite et non la nôtre. Et que tout en nous exalte ton beau nom. Que ta paix nous soit multipliée. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.